Alors, chers amis, est-ce que je peux vous présenter le professeur Bouta Etebad, professeur aux universités de Genève et de Lausanne, qui est entré en retraite il y a quelque temps, plusieurs années, qui est un grand spécialiste de cette question de la colonisation et de l'esclavage pratiqué par le Nord au détriment de l'hémisphère sud, avec un regard particulier sur les jeunes rois qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés par ces 250 ans d'histoire très troublante. Et alors, lorsque il m'a contacté, il m'a parlé du livre qu'il était en train de finir, qui est sorti de presse tout récemment, naturellement que j'en ai parlé au comité qui était extrêmement intéressé. Vous le devinez bien, puisque d'un côté, nous sommes horriblement concernés par le phénomène colonisation et de l'esclavage, et puis nous avons aussi un autre ténor de l'humanitaire, Gustave Moynier, qui est tout aussi concerné d'une autre manière, mais d'une manière tout aussi brûlante. De sorte que pour nous, c'était un privilège que d'avoir la vision, l'analyse d'un académique qui ne joue pas avec le feu et qui ne veut pas détruire toutes les statues et toutes les personnes, qui veut analyser ce qui s'est fait dans une démarche scientifique. Parce que vous le savez, à Genève, mais un peu partout, on est en train maintenant de porter un regard très, très critique sur, effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça des phénomènes, mais des successions d'événements qui sont assez émouvantes et qui nous mettent en question. Nous l'avons déjà vu par rapport à l'épisode algérien d'Henri Dunant, mais vous en saurez beaucoup plus et je vous laisse tout de suite la parole.
Merci beaucoup de l'invitation d'abord. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Je ne connaissais pas l'existence de la société Henri Dunant. Je sais évidemment que Dunant doit être célébré, comme d'ailleurs Rousseau l'est, et qu'il y a des associations et des institutions genevoises, mais que je ne connais pas très bien. Votre président a mentionné mon passage aux universités de Lausanne et de Zurich et de Genève. Et j'y ai principalement travaillé en mettant en perspective une histoire qui m'amenait très souvent dans des régions très lointaines d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Et puis avec l'âge venant, avec la retraite aussi, je me suis dit que je devais me rapprocher de Genève, qui m'a tellement donné et de laquelle j'ai beaucoup reçu, et je me suis intéressé, mais en ne quittant pas les horizons lointains, je me suis intéressé à ce que je pouvais retrouver comme trace à Genève, par exemple auprès de certains des personnages, des personnalités qui ont fait l'histoire de Genève, d'où ce livre où vous avez une galerie de portraits, une quinzaine de personnalités, et dont la caractéristique évidemment est qu'elles ont toutes, elles se sont toutes exprimées par écrit. Le sentiment lorsque je faisais des interventions auprès de différents publics, que je leur parlais de choses qui étaient assez exotiques. C'est vrai que, de surcroît, parler à Genève et faire référence à des jeunes voix et leur parler à un public de colonisation et d'esclavage, ça paraît un petit peu, peut-être saugrenu pour certains esprits. Mais à mon étonnement, lorsque j'ai fait le tour de ces personnalités genevoises qui sont dans leur très grande majorité des philosophes, des érudits, des savants, des voyageurs, des humanistes, des philanthropes, bien entendu, j'ai été étonné à quel point ils avaient écrit, ils s'étaient intéressés à ces deux phénomènes, pris des positions dans une certaine mesure originale. On va peut-être y venir avec Dunant. C'est bon, Henri Dunant n'est pas connu au premier chef pour avoir écrit sur la colonisation ou s'être exprimé là-dessus, et encore moins, à mon avis, il n'est pas connu pour avoir donné son avis sur le système de l'esclavage. Alors, ce qui me permet d'introduire un premier élément, une singularité chez Henri Dunant, c'est que, oui, il s'est exprimé sur la colonisation, il a donné sa conception de la colonisation, il a écrit sur l'esclavage, mais dans les deux cas, très peu. Ça, c'est la première, je dirais, singularité de Dunant par rapport à d'autres genevois, à d'autres hommes de lettres locaux qui se sont exprimés sur ces deux phénomènes. Et je pourrais, pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans le livre et pour vous citer les noms les plus connus, côtoyant Dunant, il y a Jean-Jacques Rousseau, bien entendu, Étienne Clavière. Peut-être que certaines personnes connaissent Clavière, qui était un financier, un homme politique, Sismondi, bien entendu, Le Conche, la chaîne Bougerie, René Claparède, qui n'a pas de nom de rue à son nom, mais ses frères et son cousin, oui, ou alors, bien entendu, Gustave Moynier. Alors, la singularité de Dunant par rapport au nom, aux personnes qui viennent d'être citées, c'est qu'il a, dans l'ensemble, peu écrit, et que ce qu'il dit de la colonisation et de l'esclavage ne tient que sur quelques dizaines de pages. La deuxième caractéristique, si on voulait en chercher pour singulariser Dunant, c'est que, à l'inverse de ces cinq personnes que je viens de citer, et qui sont les plus connus, Rousseau, Clavière, Sismondi, Claparède et Moynier, Dunant a voyagé, était présent, a résidé, alors que ceux que je viens de citer n'ont jamais mis les pieds dans une possession européenne d'outre-mer. Comme vous le savez, bien entendu, Dunant est allé en Algérie, qu'on appelait l'Algérie française à l'époque. Et puis, il a également voyagé dans la Tunisie d'avant le protectorat français. Et le livre de récits qu'il a laissé de son passage en Tunisie, je vous le rappelle, c'est quelque chose comme
la notice.
Notice sur la régence de Tunis. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, voilà pourquoi Dunant, parce qu'il a écrit. Au fond, c'était ce que je recherchais pour faire le livre. C'était des personnalités genevoises qui ont donné un avis. C'est-à-dire que ce sont des sources écrites qui parlent. Et il existe évidemment des sources pour Genève qui permettent de localiser, par exemple, l'existence de marchands. On dirait aujourd'hui aussi de banquiers, mais les banquiers n'existaient pas vraiment à l'époque. Des manieurs d'argent, de financiers comme Clavière. Ces sources permettent de localiser dans le milieu des affaires des personnes ou des familles ou des entreprises qui ont étaient impliqués dans le commerce des esclaves ou qui ont possédé des plantations esclavagistes dans les Amériques. Mais ces personnes ne donnent pas leur avis sur la colonisation. Ces sources, qui sont des sources qui concernent surtout la circulation des hommes, des marchandises ou des capitaux, ces sources ne parlent pas comme ces personnalités dont j'ai cité le nom. Dunant est apparu en bonne place dans cette liste et l'idée c'était de voir ce qu'ils disent. Que dit Dunant? Et surtout, si je peux présenter les choses comme ça, qu'est-ce qui frappe ou qu'est-ce qui apparaît lorsque Dunant parle de la colonisation et de l'esclavage? Alors, je pense que vous allez le deviner, il y a deux paradoxes. Je vous donne le premier, sur lequel je vais m'attarder quelques minutes, et puis on passera au second. Vous allez voir qu'il s'agit de paradoxes. Ces paradoxes sont des revirements. Si vous voulez, Dunant, il dit quelque chose à un moment donné, qui est un début, puis ensuite il change d'avis. D'où le paradoxe pour l'historien. Donc c'est un cheminement intellectuel que Dunant a et qui pose un problème à l'universitaire, au chercheur, et puis je vais essayer de dire, de voir si on peut décoder ces revirements ou ces paradoxes qui, dans un premier temps, il faut le dire, quand on les découvre, sont assez déroutants, en adoptant le point de vue de l'historien. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la colonisation et sur l'esclavage et qui pourrait nous surprendre? Alors, sur la colonisation, d'abord, c'est un fervent partisan de la colonisation. Puis, ça c'est le premier temps. Si vous voulez, entre le premier et le deuxième temps, il y a entre 20 et 30 ans, dans les deux cas, également pour l'esclavage. Donc, c'est là où on peut adopter la position de l'historien. Il y a un écart entre le moment où Dunant s'affiche comme partisan de la colonisation et le moment où il va adopter une position farouchement anticolonialiste, il y a entre 20 et 30 ans. Bien, c'est que la situation, elle change, bien entendu. Et c'est cela qui intéresse l'historien. C'est ce que je vais essayer de retenir pour décoder ce que l'on appelle des revirements, des volte-face, ce que vous voulez. Dans le deuxième cas, pour l'esclavage, Dunant va de la même manière, et toujours avec un écart d'une vingtaine d'années, il va dans un premier temps édulcorer, ça veut dire minimiser, l'esclavage des Noirs en terre d'islam avant de dénoncer, dans un second temps et de manière violente, la traite négrière organisée par les marchands arabes. Bien, sur la colonisation, donc le premier volet, premier paradoxe apparent. On a beaucoup écrit sur Dunant en Algérie, vous le savez. Et grâce à ces écrits, nous connaissons aujourd'hui beaucoup de choses. Ce que nous connaissons, et en bonne quantité, c'est sur les affaires de Dunant en Algérie. Mais très peu de choses sur sa conception de la colonisation. Quand Dunant parle de la colonisation, à quel système est-ce qu'il se rattache? Alors, ce que Dunant a comme idée de la colonisation apparaît de manière furtive dans un texte rédigé en 1865. Je vais vous donner quelques extraits, il va y avoir des citations, mais on ne peut pas faire l'économie de ces citations pour bien saisir sa conception. Alors Dunant commence par regretter quelque chose, c'est qu'au sein de la communauté européenne, vous savez qu'en Algérie va s'implanter une communauté, pas majoritairement des Français dans un premier temps, mais plutôt des Espagnols, des Italiens, des Maltais, puis des Français, des Allemands, des Suisses aussi, et puis ils vont tous être naturalisés Français. Donc on appelle ça la communauté européenne. Au sein de cette communauté européenne, du Nord va regretter ce qu'il appelle un esprit d'hostilité des races vis-à-vis des autochtones. Puis il poursuit, et là je cite, les Européens, vous allez voir, il y a quelque chose de, comment dire, il y a un ton très conciliateur ici. Je reprends la citation. Les Européens auraient dû comprendre que l'élément indigène leur était indispensable comme main-d'œuvre et que les deux éléments, quoique si différents, l'élément européen et l'élément indigène, quoique si différents, avaient besoin, dans leur propre intérêt, de se prêter un concours réciproque, loyal et bienveillant. Et encore autre chose, plus loin, de nouveau une situation. Quoi qu'il y ait d'immenses difficultés à modifier les usages du peuple arabe, cependant, l'un des puissants moyens de rattacher à la France les diverses races de l'Algérie et par conséquent de les pacifier et de les civiliser, c'est d'amalgamer leurs intérêts matériels avec ceux des Européens. Alors, pour les personnes qui connaissent l'histoire de la colonisation française, ça renvoie, donc c'est la conception coloniale du Nord, ça renvoie à un système que l'on appelle le système de l'association. Je vous ai dit, ce système a des dehors conciliants et généreux. Mais, il y a toujours un mais. Il s'agit d'un instrument de domination également. Nous sommes en situation coloniale. Il s'agit d'un instrument de domination qui justifie en Algérie le refoulement des populations locales et l'accaparement de leurs terres. Dunant, je vous ai dit, est un partisan de la colonisation. Il proclame que la France a mené en Algérie, je cite, une glorieuse conquête. Et pour Dunant, cette formule, ce système de l'association, accorde le droit à la puissance dominante au nom de sa supposée supériorité technique et intellectuelle d'imposer ses valeurs, s'il le faut, par la force. Pour Dunant et pour ceux qui, à l'époque, sont adeptes de cette doctrine de l'association, il est évident, il est clair que la seule ligne de conduite de l'indigène est celle que lui fixe le colonisateur européen. Donc, Dunant, partisan de la colonisation, avec cette conception qui est partagée par les contemporains, par ses contemporains. 20 ans plus tard, donc ça nous amène vers 1885, Dunant est réduit, ça vous le savez, c'est les années noires, réduit à un isolement, un dénuement total. Dunant va écrire un autre texte dans lequel il exprime son antimilitarisme et sa solidarité avec les déshérités de la planète. Il y dénonce, c'est ce qui m'a intéressé aussi, le mythe de la colonisation civilisatrice auquel il a cru une vingtaine d'années plus tôt. Et dans un passage, ces passages sont célèbres et sont très souvent cités par les historiens qui s'intéressent au cheminement intellectuel de Dunant. Dans un passage intitulé « Ces peuples que nous avons asservis », Dunant se lance au soir de sa vie dans une critique acerbe de la colonisation et l'attaque est d'une radicalité, vous allez voir, très grande. Je cite. Pour mettre mon grain de sel, il n'y a pas d'attaque aussi forte contre la colonisation que celle de Dunant et les mots qu'il utilise. Alors, nous sommes à peu près dans le dernier tiers du 19e siècle. Je cite, « Mais de quel droit, écrit Dunant, les grandes nations de l'Europe portent-elles la désolation chez les peuples de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie, qui ne demandent qu'à rester libres. Elles prétendent, ce sont les grandes nations de l'Europe, Elles prétendent, pour couvrir leur ambition et leur injustice, qu'elles y portent la civilisation moderne. Mais en réalité, ce qu'elles y portent, ce sont les vices, les corruptions et toutes les iniquités que ces peuples ne connaissent pas encore. Elles y portent la dévastation, le deuil et la misère. Voilà le plus souvent la civilisation qu'elles y portent. Bien, dans certains textes, vous trouverez cela, mais vous ne trouverez pas ce que Dunant disait avant. Dans d'autres textes, vous trouverez ce que Dunant disait avant, mais pas ce qu'il a dit. Okay. Il faut dire les deux, bien entendu, et essayer de voir, essayer de comprendre, d'expliquer ce revirement. Alors, en 20 ans, les choses ont beaucoup changé en Algérie. Dunant a pu prendre, durant ces 2 à 3 décennies, la mesure de l'échec de l'expérience française en Algérie. Et les historiens aujourd'hui savent et insistent sur ce fait que rarement une colonisation comme celle de la France en Algérie se sera singularisée autant par son caractère coercitif et inégalitaire. L'Algérie, comme l'Afrique du Sud ségrégationniste, offrira à une minorité d'Européens la possibilité de s'approprier une fraction disproportionnée des richesses, ainsi que celle d'exclure et d'exploiter la majorité autochtone condamnée à l'appauvrissement. Dans un premier temps, le colonialisme de Dunant est la manifestation d'un engagement dans la mission civilisatrice de l'Europe à laquelle il croit. Et dans un second temps, son anticolonialisme, c'est une révolte contre une application, je cite, « brutale et immorale » de la politique coloniale. Deuxième paradoxe apparent, et c'est là où nous retrouvons le texte écrit, c'est un récit que fait Durand de son voyage effectué en Tunisie. Le texte date de 1857 et l'ouvrage porte le titre de « Notice », comme indiqué tout à l'heure, sur la régence de Tunis. Dunant consacre un chapitre. Alors, c'est un livre que vous pouvez lire, c'est un récit assez agréable à lire, et on découvre beaucoup de choses sur la capitale, la ville de Tunis. Dunant prend la peine d'être le guide, il vous prend par la main, c'est sympa, un guide de voyage. Et puis il va vous dire, bon, si vous me suivez en prenant le chemin, on monte ensemble et puis on aura une vue. Et puis, cette vue est magnifique, le ciel est, etc. Et puis dire, ah mais ça me rappelle la Suisse, tellement c'est beau. Donc, c'est pas désagréable à lire comme récit de voyage. Ce qui m'a intéressé, c'est le chapitre sur l'esclavage. Parce qu'en plus de faire le guide de voyage, Dunant veut entrer dans la société tunisienne. Il veut en comprendre les ressorts. Alors, il prend un sujet qui va lui servir pour faire des oppositions. Vous allez voir, il fait des comparaisons. Il prend un sujet qui est l'esclavage en terre d'islam. Quelques années plus tard, un peu après 1857, l'actualité de l'époque, c'est la guerre de sécession qui commence aux États-Unis, qui s'achève en 1865, vous savez, par la signature par Lincoln de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Mais en pleine guerre de sécession, Dunant va augmenter le texte. Ce chapitre va devenir beaucoup plus consistant. Il y aura plus de pages, il y aura plus de notes en bas de page, notamment Et c'est ce texte qui m'a intéressé, qui est plein de bonnes intentions, mais aussi d'incohérence et d'approximation. Bon, si on devait jeter une petite pierre d'une en tant qu'auteur, je pense que là, on pourrait le faire. C'est mon avis personnel. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Que fait Dunant? Dans un premier temps, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il va, considérer l'esclavage dans le monde musulman et il veut démontrer qu'il est plus clément que dans le monde occidental. Et quand il dit le monde occidental, ça veut dire américain. Dunant n'est pas le seul à faire ce genre d'exercice à Genève. D'autres l'ont fait avant lui. Clavière, Étienne Clavière, Sismondi, avait déjà présenté l'esclavage dans les Amériques comme étant cruel et frénétique. Et il l'avait comparé alors à l'esclavage en Afrique subsaharienne, jugé comme bénin et poussif. Donc, on va dramatiser en quelque sorte la comparaison en présentant l'esclavage américain organisé par le colonisateur européen comme particulièrement cruel d'un côté et plutôt doux, entre guillemets, de l'autre. Quand on lit le chapitre de Dunant sur l'esclavage en terre d'islam, on se rend compte qu'il insiste beaucoup sur l'émancipation des esclaves noirs dans la régence de Tunis, et cette émancipation date de 1846. Alors, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, la date, je veux dire, mais c'est très précoce. C'est précoce par rapport à d'autres décisions d'abolir l'esclavage en Occident. Notamment. Alors, je vous ai dit que Lincoln le fait en 1865. Donc, effectivement, il y a une précocité qui a attiré l'attention de Dunant. Pour le reste, je dirais qu'il est très mal informé lorsqu'on lit ce chapitre. Nulle part, Dunant n'indique que l'abolition de la traite de l'esclavage des Noirs à Tunis, dans la régence de Tunis, est une décision qui est imposé par le haut, et surtout, c'est une décision qui est prise sous la pression extérieure de la puissance de l'époque, qui était la Grande-Bretagne. Il ne dit pas non plus, Dunant, que cette mesure a une portée limitée. Elle ne contient, par exemple, aucune disposition contraignante et n'est assortie d'aucune sanction. D'ailleurs, c'est une mesure assez particulière parce que ce n'est pas au maître de libérer les esclaves, mais c'est à ceux-ci de demander leur liberté. C'est une abolition tellement boiteuse qu'il faut attendre 1890, ça veut dire le protectorat français, pour qu'une nouvelle abolition soit promulguée et qui mette fin véritablement à l'esclavage en Tunisie. Dunant ne tient pas compte de tout cela, soit par ignorance, soit par omission, et il continue, il veut continuer de croire, je cite, « en l'immense supériorité relative de l'esclavage en terre d'islam ». Pour lui, le système esclavagiste états-unien ne tient pas la comparaison, car toute latitude y serait accordée au maître pour décider seul du sort de leur bétail humain. Alors que, écrit Dunant, alors que chez les musulmans, je cite, aujourd'hui pour les historiens c'est difficile de citer ces passages parce que ça a été vraiment très largement contredit. Mais bon, je cite, d'après Dunant, chez les musulmans, les lois ont été faites en faveur des hommes de couleur. Le noir ou le mulâtre est considéré par les mœurs comme l'égal égalité, l'égal de l'homme blanc. Aucun mépris, ne pèse sur lui, ça veut dire l'homme de couleur. Un mot, et là Dunant se laisse aller par sa générosité, sans limite. En un mot, c'est un frère. Alors évidemment, les conditions de vie des esclaves en terre d'islam ne sont pas aussi douces que le croit Dunant. En Tunisie, les esclaves noirs affranchis sont considérés, toutes les études qui existent aujourd'hui sur la question le montrent, comme constituant un groupe à part dont l'intégration est entravée. Après leur émancipation, ces esclaves formeront un sous-prolétariat à qui sont réservées les tâches les plus viles et les plus pénibles. Ça, c'est de nouveau ce premier temps. Et il y en a un second. Près d'une vingtaine d'années plus tard, après ce texte bienveillant sur l'esclavage en terre d'islam, Dunant va changer de cap. Il va se lancer dans une campagne de dénonciation de la traite arabo-musulmane et il s'y élève contre ce dont il n'a pas tenu compte lors de son séjour dans la régence de Tunis, à savoir la continuation de la traite négrière à destination de l'Afrique du Nord, de la péninsule arabique, du Proche ou du Moyen-Orient. Dunant fait une démarche entre le milieu des années 1850 et le milieu des années 1870 qui illustre une évolution qui est bien connue des historiens. Je demande un petit peu de votre attention ici parce que c'est quelque chose que, comment dire, je sais comment le présenter, mais je ne suis pas sûr que, comme c'est assez dense, qu'on peut bien saisir le basculement. Alors, jusqu'aux années 1850, voilà ce que l'on croit en Europe et voilà ce que, évidemment, croit Dunant. Ce que l'on croit en Europe, c'est ce que avancent les premiers abolitionnistes européens et nord-américains. Ils font porter ces abolitionnistes les responsabilités en les mettant toutes sur le dos des négriers et des planteurs blancs, européens. Puis, à partir des années 1870, dans le dernier tiers du 19e siècle, donc vous avez de nouveau ce décalage de 20-30 ans, le tableau change. On va percevoir les choses d'une autre manière en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce sont ce qu'on appelle les récits des explorateurs. Des gens qui sont allés sur place, qui ont voyagé, qui ont vu, qui ont observé, qui ont récolté des informations et qui les ont mis par écrit. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils rapportent? Ils découvrent l'existence de longue date, en Afrique, au sud du Sahara, de la traite arabe à destination du monde musulman. Ils découvrent l'esclavage africain à usage interne. Dès lors, les Européens vont relativiser leur culpabilité en établissant les responsabilités des Arabes et des Africains dans la survivance de la traite et de l'esclavage sur le continent noir. C'est ce que fait Dunant. Dans un premier temps, il dit « l'esclavage en terre d'islam a plus de douceur entre guillemets que l'esclavage imposé par les Européens dans les Amériques via la traite atlantique, puis dans un second temps, avec les nouvelles informations qui arrivent en Europe, il rectifie en quelque sorte son point de vue et il dit ce que j'ai souligné tout à l'heure. Dunant va gommer. Il écrit ses mémoires, mais il va gommer toute trace de ses affaires en Algérie et de son récit dans la régence de Tunis. Au soir de sa vie, ce sont des souvenirs désagréables pour lui, car rien de bon ni de grand n'est sorti de ses expériences lointaines. Ça, c'est la première chose qui a retenu mon attention. Deuxième élément de conclusion provisoire. En Afrique du Nord, Dunant passe à côté de ce que d'autres à son époque ont perçu. En Algérie, il ne fait pas cas, Dunant, des horreurs de la conquête, des déplacements forcés de population, de la confiscation des terres, de l'appauvrissement des indigènes. Dans la régence de Tunis, il se méprend sur le système esclavagiste en place, dans une société foncièrement inégalitaire. Vous savez que, et ce sera le mot de la fin en ce qui me concerne, que quelques années avant son décès, il reçoit le prix Nobel de la paix, qui célèbre le fondateur de l'humanitaire moderne. De mon point de vue, pour ce que j'ai analysé dans ses écrits, ce prix ne célèbre pas son anticolonialisme tardif, ni sa vaine dénonciation de la traite arabo-musulmane. Merci de votre attention.